Je passe la parole à Monsieur Olivier Quéplin.
Oui, alors, à la fois, depuis un certain temps, je ne livre plus des communications écrites parce que je n'arrive pas à me détacher du texte que j'ai écrit, donc c'est généralement un peu ennuyeux. Et d'un autre côté, ce côté positif, il y a un côté négatif, c'est qu'évidemment, il faudra que ce que je vais vous dire aujourd'hui soit parfois un peu consolidé ou un peu, comment dirais-je, référencié. Donc, c'est un certain nombre d'idées qui me sont venues à partir d'abord de la réunion d'aujourd'hui. La réunion d'aujourd'hui, je savais donc quels étaient les participants, et donc je pensais qu'on allait bien sûr parler un moment des expositions dans le patrimoine, puis de travaux tout à fait spécifiques comme Waron, enfin toute une série d'exemples. Donc j'ai essayé de parler plutôt de la question de la relation entre l'art et le patrimoine à travers principalement des exemples de commandes publiques qui ont trois formes. Soit ce sont des commandes publiques pérennes, soit ce sont des commandes publiques qui permettent à une œuvre d'art d'exister, mais cette œuvre d'art quittera le lieu, soit ce sont des commandes publiques qui vont disparaître et dont on ne gardera que le souvenir, la mémoire dont parlait Jean-Jacques Ayagon, ou bien sûr, les éléments photographiques qui nous permettent de conserver l'image. Le deuxième élément qui a construit la petite communication modeste que je voulais faire, c'est le fait que je voulais commencer peut-être par voir. Alors c'est peut-être un peu long, mais je vais essayer de le faire vite. Quand j'étais un jeune étudiant, puis quand j'ai enseigné à Paris 1, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans les bibliographies, il y avait un livre très intéressant, qui était un livre d'un historien critique d'art qui est devenu plutôt un romancier et qui est plutôt allé vers la construction de sa vie que la construction d'une œuvre théorique, et plutôt une construction d'œuvre romanesque, qui était John Berger. Et peut-être connaissez-vous ce livre qui est assez fameux, qui s'appelait « Voir le voir ». Ce livre était fait de deux parties. La première était une partie avec des photographies et des textes, et la deuxième, il n'y avait que des photographies. Alors, loin de moi l'idée d'avoir la prétention de faire le même genre de travail, ces photographies, il les voulait comme un discours parlante. Ce que je retiendrai simplement de cette idée d'un discours, ou en tout cas d'une manière de mettre des photos les unes avec les autres et peut-être simplement d'apporter une information ou d'aller un tout petit peu plus loin si on en a le temps, m'a semblé intéressante et a été redoublée par une émission de radio auquel j'ai participé la semaine dernière qui s'appelle le téléphone sonne, et donc il y a beaucoup d'appels d'auditeurs. Et je m'attendais au pire, naturellement, Murakami, tout ça, je me disais, on va prendre notre volet de bois vert. Et en fait, non, les questions qui n'étaient pas spécialement choisies, parce que je voyais comment les choses arrivaient, les mails, etc., étaient des questions qui pouvaient être naïves, peut-être, mais qui étaient en tout cas des questions très intéressées sur l'art, sur que pouvait représenter l'art aujourd'hui, qu'était-ce que contempler, etc. Et il en est sorti plusieurs fois l'idée que les gens ne prenaient plus le temps de voir, que donc nous parlions, nous écrivions, nous tenions un certain nombre de discours, et nous connaissons bien sûr toutes les fameuses études sociologiques sur le temps de regard d'un spectateur dans un musée. Évidemment, ce n'est pas heureusement le temps de chaque spectateur, c'est le défaut des statistiques. Mais comme vous le savez, selon ces études sociologiques que vous connaissez, ça va de moins d'une seconde à 2 secondes 30, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est des choses terrifiantes, mais bon, évidemment, je suppose que dans cette salle, c'est pas le cas. Mais enfin, néanmoins, voilà. Donc je me permets, après cette longue introduction, de vous montrer un certain nombre d'exemples. Ils sont assez connus, il n'y en a pas forcément de récents. Je ne vais pas tellement parler, mais peut-être que vous aurez envie, au moment des tables rondes, d'en parler. Voilà en tout cas un état, entre guillemets, à travers ces trois processus d'œuvres d'art dans le patrimoine, à travers un choix d'œuvres assez connu concernant ce patrimoine. Et après, je vous en dirai quelques mots. Donc, voilà l'œuvre de Felice Varini à l'Orangerie de Versailles. C'est une œuvre de trompe-l'œil. Bien sûr, il n'y a pas des carrés pendus. C'est à partir d'un phénomène évidemment optique que nous connaissons tous, du point de vue de la perspective, que déposant sur ces murs des... de manière réversible, bien sûr, des autocollants tout au long de la perspective, il nous donne ce sentiment, tout d'un coup, d'une géométrie matérielle qui vient se superposer à l'architecture. Pour le reste, je vais simplement, si je ne me trompe pas, vous donner les noms, et après, nous essaierons de partir de se voir le voir, et puis j'essaierai de vous dire deux, trois choses pas trop bête par la suite. La même orangerie avec une œuvre de Marc Couturier. Vous voyez que tout d'un coup, le patrimoine prend une allure toute différente. Mais il est cependant bien là et il demeure dans la beauté de son architecture. Ça, c'est le salon d'accueil du ministère de l'Éducation nationale et ce sont des œuvres d'Alechinski. Cette œuvre est une œuvre d'Armand qui se trouve, je ne sais plus si elle a été remise, oui, elle a été remise en face de la gare Saint-Lazare. On voit bien sûr le rapport entre les différents types d'horloges, si j'ose dire, en tout cas de deux catégories. Ça, ce sont des travaux de Geneviève Vasse à Notre-Dame de Lamballe. Geneviève Vasse et Olivier Debré donc, sont intervenus sur les vitraux. C'est un travail de fleurs, de simples, bien connus évidemment dans les églises, mais de Carole Benzaquin, qui se trouve dans une petite église, à Varennes-Jarcy. Ça, c'est une œuvre très mystérieuse, très belle, de Jean-Pierre Bertrand, vous savez, qui travaille depuis des années sur la lumière jaune. C'est dommage que Laurent Lebon n'était pas là, parce qu'un jour, il m'a posé une question qui m'a fait terriblement rire. Il m'a dit, mais c'est curieux, est-ce que tu crois qu'il travaille sur le jaune du Vatican et que donc c'est un papiste? Je dis, je ne crois pas. En tout cas, il travaille sur la lumière jaune, et ça, c'est à Bourg-Saint-Andéol. Ça, c'est un travail de Pierre Bismuth qui a été retiré. C'est une œuvre publique qui était réversible, éphémère, qui était lors des fêtes de Nancy. C'est sur la place Stanislas, une série de sculptures miroirs qui permettaient, par son côté sphérique, de pouvoir à la fois regarder la place réellement et en même temps de voir tout le paysage qui s'y inscrivait. C'est différent évidemment de la fontaine de Bury, mais il y a l'idée de prendre le paysage dans la surface miroitante. Ça, c'est à la préfecture des Alpes-Maritimes, à Nice. C'est un travail à la fois, on va dire, sur le bâtiment, sur l'architecture, sur le design de Jean-Charles Blais. À Blois, les jardins du château, les jardins de Gilles Clément, c'est aussi pour montrer comment l'art d'aujourd'hui peut se lier de toutes sortes de manières. Nous avons de la peinture, nous avons vu de la sculpture, du design, et là nous avons donc le travail d'un jardinier qui joue à la fois avec la facture et le dessin classique, et comme vous voyez, l'outrepasse, le réécrit, si j'ose dire. Ça, c'est un travail de Christophe Cusin qui se trouve où exactement? Je ne sais plus. Oui, tout près de Paris. C'est Logne, voilà, c'est à Logne. Donc vous voyez le jeu aussi sur l'architecture même. Alors c'est un patrimoine du 19e, si je me souviens bien, ou début 20e même. Et c'est une église qui est donc fin du 19e ou peut-être moderne, 20e, pardon, enfin pas dans le sens historique du terme. Et donc où il joue à la fois sur la transparence, sur des dessins géométriques, comme vous voyez sur la projection de la lumière. Ça, évidemment, c'est pas loin d'ici. C'est le grand rideau d'Olivier Debré à la salle Richelieu de la Comédie-Française. Là, il faut regarder un peu plus attentivement. Vous voyez presque en premier plan, c'est une sorte de, on va dire, de pièce, enfin de très grosse pièce ou de plot. C'est un hommage à Arago et Yann Dibetz avait choisi de placer l'ensemble de ces plots très discrets à la surface des différents bitumes ou pavés, la ligne du méridien. Ça, c'est à la mairie de Chinon. Ce sont des sculptures d'Éric Dittmann dans l'entrée de la mairie. Là, Jean-Hubert en parlera mieux que moi. Il a travaillé à cette œuvre qui, avec l'artiste Braxo Dimitrievitch, est au château de Waron, où les représentations de la noblesse et les outils du paysannat se mêlent dans une même salle. Ça, alors, c'est l'autre voisin, Guy Tortosa, qui était un des acteurs centraux de cette commande aux côtés de Sylvain Dubuisson. C'est à Chauvigny. Il y a eu donc un ascenseur et un escalier que cet artiste designer. Ça, c'est à La Rochelle, c'est la tour de la lanterne, c'est l'artiste Gottfried Honegger qui a construit à la fois les structures, qui a travaillé sur la question de la lumière, et il y a aussi une bande sonore. Ça, c'est une des premières. C'est d'un sculpteur scandinave qui vivait en France très souvent, enfin, qui est Jacobsen, et c'est devant l'abbaye Saint-André de Meymac. Ça, nous sommes avec les œuvres de Tchirle Jaffé, qui se trouve à Funeraria, qui est dans une ville que je suis en train d'oublier, Perpignan, absolument, dans l'église Funeraria, Perpignan. Ça, c'est au Pont Neuf à Toulouse. C'est une commande éphémère. L'artiste Kogler, l'artiste autrichien, a essayé de mettre un dessin qui correspondait à sa lecture du pont, à la dynamique du pont, sur l'architecture du Pont Neuf. Et au bout de, je ne sais pas, de 3 mois, l'œuvre a été enlevée. Ça, c'est une œuvre très célèbre de la commande publique. C'est la place des Écritures à Figeac, où l'artiste Joseph Kossout a travaillé en regard de la mémoire, de l'histoire, de la pierre de Rosette et de Champollion. C'est une place aujourd'hui où, si vous y passez le soir, elle n'est plus tout à fait comme ça, parce que les gens viennent y parler comme dans le temps, comme on disait, avec des chaises, et ils apportent leurs chaises, et très souvent, jusqu'à minuit, on entend l'écho des voix des gens qui aiment cette place et qui y vivent. Ça, c'est la gare de Colmar. Alors, on voit très mal, c'est un grand vitrail de Jean Le Gac. Là, nous sommes dans un musée, mais un musée qui a décidé de garder cette œuvre pérenne. C'est le musée de Picardie, à Amiens. Et ce sont les deux interventions, elle est plus importante que cela, de Sol Lewis, c'est-à-dire le musée, donc, comme dans l'histoire des musées, a pérennisé. En haut, vous savez qu'il y a, son nom m'échappe, Sorbonne, oui. Puvis de Chavannes. Voilà, moi j'ai fait mes études à la Sorbonne, je me souvenais mieux de celui du Grand Amphi, mais en haut vous avez donc Puvis de Chavannes. Ça, c'est aussi dans un musée, elle bouge très rarement, on comprend pourquoi, c'est à Rochechouart, c'est une commande publique de Richard Lang. Ça, je l'ai mis tout de même parce qu'on parle souvent du patrimoine qui est le patrimoine, disons, dans le sens historique, donc des temps modernes ou avant. Là, c'est évidemment, il y a le patrimoine industriel. On connaît la grande commande de Claude Lévesque en Lorraine. Et là, c'est un bâtiment du début 20e, c'est un hôpital et c'est une œuvre jardin, sculpture. Il y a aussi des meubles à l'intérieur de l'artiste Nishikawa. Là, comment ? C'est à Lille, pardon, excusez-moi, c'est à Lille. Là, c'est un travail de Julian Hoppie. C'est dans le bâtiment qui est occupé par la DRAC d'Aquitaine. Et ce bâtiment est un bâtiment qui a un nom que je vais vous donner. C'est la cour du couvent, c'était l'ancien couvent de l'Annonciade. Ça, c'est là aussi une œuvre pérenne dans un musée. Donc, vous voyez que dans beaucoup de nos musées, comme selon la grande tradition, des commandes ont été faites aux artistes de l'époque, qui parfois ont recouvert totalement, ou bien ont simplement caché, peuvent être découverts, ou bien ont pris place. Ce sont les grands lustres de Gaetano Pecce. À Lille, pardon, au Palais des Beaux-Arts de Lille. Là, nous sommes à Auch, c'est en bas de la tour Armagnac, et c'est un travail d'écriture et d'observatoire, de point d'observation de Jaume Plensa. Ça, c'est un travail, je ne sais pas s'il est toujours installé, je n'en suis pas sûr, qui a été fait par Anne et Patrick Poirier au moment des fêtes du débarquement, de l'anniversaire du débarquement. Et l'église s'appelle, je vais vous dire ça dans deux minutes, c'est l'église Saint-Nicolas, donc à Caen. Elle était faite de plusieurs constructions, sculptures, et puis aussi d'une reprise, collage, remontage, réinstallation de bateaux qui étaient liés au bateau des Normands qui avaient, dans le troisième ou le quatrième jour, accompagné ou ravitaillé les forces militaires alliées. Ça, c'est à Digne, donc à la cathédrale de Digne. C'est une œuvre de David Rabinovitch, dont, avec un traitement très particulier, comme vous pouvez le voir, du vitrail. Ça, c'est un autre type de patrimoine, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un patrimoine peut-être mémoriel. Il n'y a rien d'exceptionnel architecturalement. C'est à Célestat, en Alsace. Par contre, la légende, puis les souvenirs, puis la mémoire disent que depuis plus de 100 ans, c'est là que les jeunes venaient s'embrasser. Y viennent-ils toujours, je l'espère. Et donc, c'est une œuvre, le patrimoine, c'est cette mémoire d'un lieu où les jeunes de ce pays se rencontraient, s'embrassaient. Et donc, Sarkis a fait un ponton, comme vous voyez, avec deux ailes rouges en néon de chacun des côtés, et a donné à cette immatérialité de l'amour, cette forme d'œuvre. Alors, est-ce qu'on vient maintenant s'embrasser sur le ponton, ou au contraire, fuit-on pour retrouver des lieux où il n'y a rien, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de monuments pour l'amour, je ne sais pas. En tout cas, ce patrimoine immatériel, c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Ça, évidemment, c'est les grands vitraux de Soulages à Conques. Et ça, hélas, j'ai envie de dire, hélas, j'ai essayé, quand j'étais délégué aux arts plastiques, de voir s'il pouvait être remis. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est l'œuvre de ce très grand artiste américain qui vit en Italie. C'est Cy Twombly qui avait fait le rideau de l'opéra Bastille. Alors, pourquoi l'ai-je mis ? Est-ce que il fait partie du patrimoine, est-ce que l'Opéra Bastille fait déjà partie de notre patrimoine, je ne sais pas, mais quand on pense art et patrimoine, on le pense de la manière dont j'ai essayé d'en parler à travers différents exemples, mais je crois qu'il faut aussi, le patrimoine c'est une projection, ça n'est pas quelque chose qui existe comme dans la grande tradition classique, en pierre, dans l'immobilité. Je crois qu'on a compris petit à petit que le patrimoine, c'est un peu impropre, j'en conviens, mais c'est aussi quelque chose dont nous avons conscience que nous le construisons pendant nos vies. Bien sûr, c'est Versailles, bien sûr, ce sont les châteaux de la Loire, bien sûr, ce sont des lieux de patrimoine industriel, mais c'est aussi, je crois, en nous-mêmes, cette idée que nous avons le devoir, j'en sais rien, mais en tout cas, la tâche, et nous devons avoir l'ambition de nous projeter, de projeter l'idée de notre capacité à créer du patrimoine pour le futur. Et je crois que ce rideau de Twombly, que j'espère revoir un jour ici, est une œuvre formidable. Ça, alors je l'avais pris parce que je me disais, c'est assez amusant, il y a le patrimoine, c'est à la Villa Arson à Nice. Vous avez, disons, un patrimoine qui est une villa classique, assez, assez belle, que vous voyez en haut, rose. Vous avez ce qui est maintenant inscrit dans le patrimoine moderne, c'est-à-dire l'architecture de la Villa Arson. Le nom de l'architecte va m'échapper. Il est dans tous les livres d'architecture. Il vit toujours, en plus. Donc je m'excuse auprès de lui s'il y a des gens qui le connaissent. Elle est inscrite maintenant, hein, il y a eu une réfection de toutes les terrasses. Et là, vous voyez donc patrimoine du XXe siècle, un patrimoine du XIXe, d'intérêt, on va dire, convenable, moyen. Et puis vous avez l'œuvre de Felice Varini, que vous avez vu tout à l'heure dans l'orangerie à Versailles, qui essaye, de par toujours ce travail de point de vue et de pose de peinture sur différents plans, de le lier à partir de ce point de vue où cette espèce de passage nous montre comment, en fait, il y a deux imaginaires, deux manières de vivre ce lieu, cette école, cette terrasse. Cette terrasse donne sur une vue absolument extraordinaire sur la baie de Nice. Ça, c'est une œuvre plus récente qui est de Bernard Venet à la Cour des comptes. Alors, je pense que cet après-midi, Guy Tortosa vous parlera des procédures et de la manière dont se construit une commande publique, dont je ne vais pas le faire là. Mais c'est la bibliothèque de la Cour des comptes et Bernard Venet, peintre, est intervenu sur une rythmique liée aux chiffres, donc évidemment des outils que connaissent bien les usagers de la Cour des comptes, et qui a donc travaillé sur le plafond à partir aussi des éclairages latéraux qui lui donnent des lumières changeantes tout au long de la journée. Ça, c'est un vitraux de Claude Viala qui est à Aigues-Mortes. Et je terminerai sur le patrimoine industriel par ce travail de Villemoute. Alors là, il a un titre, ce travail, comme de Tours. C'est dans l'ancienne manufacture d'armes de Châtellerault. Alors voilà, j'espère que, comme ça, très rapidement, comme un dessin, une esquisse, c'était une manière de discours. Maintenant, je vais essayer de rassembler quelques idées sur ces questions du patrimoine et de l'art contemporain. Alors, je pense que, évidemment, se confronter au patrimoine, c'est se confronter au temps, et au temps au pluriel. Ce qu'on pourrait peut-être aussi dire d'une autre manière, c'est de se confronter aux époques. Alors, c'est peut-être aussi se confronter à l'histoire, mais l'histoire souvent lui retire c'est la grande histoire, alors que les temps, les époques, on pourrait rajouter un autre pluriel, les goûts. Et donc, peut-être aussi, comme chacun sait, c'est une banalité de le dire, l'histoire, c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire des groupes d'hommes, c'est l'histoire des espérances, des utopies, des ordres, etc., des pouvoirs. Donc, je suis toujours très surpris quand on oublie cela. Alors, en effet, il y a des patrimoines qui sont intouchés, c'est vrai, monolithiques. Ils existent tels qu'ils ont été créés. Ils sont tout de même relativement rares, mais ça existe. Pour ce qui est du reste, quelle est notre expérience du patrimoine et de l'art ou des arts ? C'est ce pluriel. Je me souviens, car j'avais eu en charge la première pose d'œuvre avec le sculpteur Alain Kirilli, d'œuvre dans les Tuileries, et j'étais toujours très surpris. Je n'intervenais pas sur ces questions parce que je ne souhaitais pas créer de polémique, justement, je préférais le débat, mais j'étais toujours très surpris quand on me présentait les Tuileries comme étant un jardin qui aurait une règle, une loi, que fait d'une seule époque. Enfin, c'est parce que ceux qui disaient ça savaient très bien que c'était faux, tant sur son dessin que sur les œuvres qui y étaient à l'époque. Et donc on revenait plutôt à la question des goûts. C'est-à-dire qu'en effet, peut-être que de Maître Giacometti, Germaine Richier, Jean Dubuffet étaient peut-être une faute de goût, admettons. Mais on ne pouvait pas, sous prétexte qu'il y avait une élégance ou un goût, dire que ce goût remplaçait l'histoire, ce goût remplaçait les différents dessins, ce goût remplaçait les différentes couches. Et je crois qu'on retrouve ça aussi à Versailles, n'est-ce pas ? Je pense que le patrimoine, c'est avant tout, généralement, si on est un peu observateur et si on prend le temps de le connaître, c'est souvent tout de même cette capacité à voir comment l'histoire l'a construit à travers différentes étapes. Alors, il y a eu une querelle, moi je me souviens quand j'étais jeune, c'était, qui est toujours là d'ailleurs, et qui existe chez les restaurateurs, chez les historiens, le fameux identique, le retour à l'identique. Bon, je pense que ça n'est pas très fondé si on accepte que l'histoire, ce n'est pas une histoire de pierre, ce n'est pas une histoire immobile, mais c'est l'histoire des hommes, et donc l'histoire de dialogue. Alors l'art contemporain là-dedans, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il n'est pas qualifié pour participer lui aussi à ce qu'est l'histoire du patrimoine à travers les goûts qui se sont ajoutés, mêlés, etc. Alors les goûts changent, il se peut effectivement qu'à telle époque on décide de détruire une chose qui avait été faite quand c'est une œuvre qui aurait été faite irréversible. Mais les morales changent, les éthiques, heureusement d'ailleurs, parce que sinon si on n'avait pas eu quelqu'un qui avait conscience de ça à Parme, eh bien, on n'aurait jamais retrouvé les chefs-d'œuvre du Corrège qui n'avaient pas été repeints, mais qui se trouvaient derrière le faux plafond qui avait été mis pour cacher les corrégies, on va dire un peu coquines, d'anges qui montaient vers le ciel. Heureusement que quelqu'un eut conscience qu'il n'y avait pas de vérité comme ça qui devait à chaque fois s'imposer, que ce soit une vérité plutôt lié à l'idée de l'universalité, qui est un concept, comme vous savez, qui naît essentiellement tout de même au XIXe siècle, et qui s'est dit, bon, il y a du relatif, hein, donc on va conserver ça. Donc je crois que l'art contemporain fait partie de cette chaîne de pensée, fait partie de cette histoire. Et donc, mettre Cuguet de l'art contemporain dans le patrimoine est, je crois, quelque chose qui souvent l'éclaire, soit par désagrément, soit par harmonie, en disant, oui, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait là? Et tout d'un coup, on regarde autrement ce qui est autour. Ou au contraire, on trouve qu'il y a là une telle justesse, une telle intelligence, que ça le magnifie par un regard d'un contemporain. J'avais aussi l'idée de dire que si l'on pense au patrimoine industriel, mais aussi à certains quartiers dont le site est classé ou inscrit, on peut se poser la question de la ville. Là encore, il y a débat. Est-ce que c'est une grande question? Est-ce que la ville, c'est la ville du plan? Est-ce que c'est la ville immuable? Est-ce que c'est le centre de Richelieu, par exemple, et que c'est avant tout cela? Ou au contraire, est-ce que la ville, c'est bien sûr la ville de l'homme public, de l'homme du pouvoir, qui décide que c'est aussi la ville de l'architecte, mais c'est aussi la ville du maçon, et bien heureusement, c'est peut-être un des grands problèmes de ce que fut la reconstruction d'après-guerre, c'est-à-dire que l'habitant, le maçon, celui qui arrange, qui modifie, n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour le faire, et donc on avait de vagues simulacres d'appropriation en bas des bars, des grands immeubles, et il n'y avait rien qui permettait cette merveille manière de faire qu'une ville ait fait de rythme, ait fait d'identité différente, ait fait de subtilité qui va depuis celui qui en a pris la décision, celui qui en a fait le plan et celui qui l'a fait exister. Ça n'empêche pas qu'effectivement Haussmann peut décider un jour de se débarrasser de toute une série de constructions et de remettre en lumière tel ou tel monument. Mais je pense que là aussi c'est le pluriel qui est intéressant. Et que toute l'histoire du bâti, des bâtiments, est faite de ces additions successives. Alors, il y a aussi une idée qui me semble importante, c'est que ça nous amène à une idée, disons, plus contemporaine, d'un point de vue de l'idéologie et du point de vue de la manière de voir les choses, qui est l'idée de la diversité, du dialogue. Aujourd'hui, il est assez difficile d'imaginer, à partir du moment où une certaine forme de démocratie est devenue le système politique qui nous gère, de ne pas avoir un moment à se confronter au débat, à la diversité, au dialogue, voire à la confrontation, à l'opprobre, à la polémique, etc. On peut parfois en être fatigué, je dois dire. On peut parfois avoir envie de se reposer un peu, de dire au fond, restons entre gens qui ont la culture nécessaire pour ça. Mais c'est un péché que de le faire, et c'est, enfin, je veux dire, c'est une erreur. La démocratie, c'est ça. Hein. La démocratie, c'est le dialogue, la diversité, jusqu'à, hélas, par exemple, l'idée que ce colloque aurait pu être fait à la va-vite pour des raisons stratégiques. C'est la démocratie. Donc, voilà. Donc, je pense que là aussi, l'art contemporain participe à ce modèle qui est le nôtre aujourd'hui, avec plus ou moins de bonheur. Parfois, comme je le crois dans les exemples que nous avons montrés, avec beaucoup de bonheur, parfois, ça peut être effectivement sujet à ces constructions. Alors, face à ça, on peut se dire, mais non, non. Restons-en aux valeurs qui sont nées du grand classicisme, du XVIIe. Nous sommes les garants du temps. Nous pouvons faire un pas en retrait de l'histoire et dire, voilà, c'est notre devoir. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que ça n'est pas une manière de sans arrêt assister à la propre mort de sa culture? Est-ce que ce n'est pas être devant la mort d'une culture qu'on rejoue sans cesse? Parce que si c'est notre devoir de dire non, il ne faut pas d'art contemporain dans le patrimoine, non, il faut simplement refaire, revivre, remettre dans son jus, mais qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit une société qui sans doute a les éléments peut-être de comprendre son passé grâce au passé et à l'histoire de l'art, mais à partir du moment où rien d'irréversible ne se commet contre la culture, on ne voit ce passé que, j'ai envie de dire, sans aucun éclairage qui le rende vivant, puisqu'il n'y a pas de regard contemporain qui pourrait peut-être le faire revivre, ou en tout cas le faire tout simplement dialoguer entre les époques et les temps. Il n'y a pas la possibilité de se dire que ce lieu-là, finalement, il appartient à notre passé, mais il nous appartient aujourd'hui, comme il appartient à l'imaginaire d'un écrivain qui va en faire autre chose. Il appartient à tout un chacun qui rêve, qui marche, qui se promène. Il y a les fameux textes merveilleux d'André Breton, de Nadja, ou dans Les Pas Perdus, où la ville existe justement parce que nous sommes capables de nous réapproprier la Porte Saint-Denis, quelque chose dans une vitrine, quelque chose qui, à la manière des surréalistes qui voyaient l'art partout, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, mais qui le repéraient ici ou là, mixe. Alors, un jour, je me souviens de Jean-Hubert Martin qui faisait une conférence, je ne sais plus où, qui expliquait que le collage était l'esthétique du XXe siècle, que le XXe siècle avait créé une esthétique qui n'existait pas vraiment avant, qui était le collage. Et ben oui, le collage, on peut dire après qu'il y a eu le mixage, etc. etc. Est-ce que ça nous rend plus béat ou plus inculte, ou est-ce que ça nous rend plus incapables de comprendre le réel ou l'esthétique, le mixage, le collage? Je ne crois pas. Je crois que Jean-Jacques Ayagon l'a dit en introduction, et ça m'a fait penser au livre de Bernard Lahir, qui est un livre que je vous conseille, qui s'appelle La culture des individus, qui est un chercheur au CNRS en charge de sa charge à Lyon, je crois. Et bien Bernard Lahir fait un ouvrage où il explique comment l'individu du XXe siècle et du XXIe, où il s'est sorti, je crois, au début du XXIe siècle, compose sa culture. Et on voit bien qu'il la compose par le collage, par le mixage, en prenant telle ou telle chose, en rendant un peu inutiles les histoires de culture haute et basse, parce qu'on se rend compte que, admettons qu'ici nous soyons que des formidables membres du club de la culture haute, nous nous rendons bien compte que notre culture, elle est aussi faite de cultures beaucoup plus ordinaires, beaucoup plus populaires, beaucoup naturellement, hein, puisqu'il s'agit de l'histoire des hommes et de la vie. Donc ce que je crois, c'est que ça n'est pas si bon que ça, comme certains le croient, de toujours rejouer une culture qui appartient à des siècles passés. Oui, il faut naturellement qu'elle soit totalement respectée et considérée, mais il est plutôt bon de l'aiguillonner avec la culture d'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire aussi que c'est une chose qui me semble très importante à partir du moment où on se dit qu'il s'agit de vie, de vitalité, il s'agit de capacité pour une société de se projeter dans l'avenir. Donc, je pense que la question de l'art et du patrimoine est passionnante parce que c'est exactement le terrain qu'elle nous propose. Comment se projeter, comment être avec le passé, mais comment se projeter dans l'avenir et comment construire notre culture sans ignorance, sans inculture, aujourd'hui, mais pour demain aussi. Hein, puisque, comme je le crois profondément, le patrimoine, c'est quelque chose qu'on construit pour demain. Alors, je pense que là aussi, l'art contemporain a quelque chose, et je pense que, alors revenons à des expositions dans les lieux patrimoniaux et revenons à Versailles. Je pense qu'elle a une capacité de créer, l'art a une capacité de créer la surprise qui provoque donc ces fameuses lectures dont je parlais. Quand j'avais vu l'exposition Jeff Koons, quand on connaît un peu l'art contemporain, on sait que ça n'est pas un sculpteur en tant que tel, c'est un artiste conceptuel qui se sert de formes, souvent manufacturées, qui l'agrandit, qui le fait faire dans des matériaux très précieux. Et voilà, par exemple, quelle était ma réaction. J'allais à Versailles, évidemment, depuis tant d'années. Je le voyais comme lieu d'histoire, avec une certaine passivité, en regardant, en lisant ce qui avait pu se passer ici, là, et en ne me posant jamais aucune question particulière sur les agencements, sur les goûts. Mais voilà, ici a vécu, ici c'est fait, ici les coutumes, ici ces grands événements historiques ont eu lieu, etc. Au fond, quand cet artiste conceptuel Jeff Koons a mis ses œuvres, qu'est-ce que j'ai compris moi de ce qu'il nous disait? Il nous parlait des goûts, de l'histoire des goûts, et il nous disait quelque chose d'un peu terrible. On peut ne pas être d'accord avec nous. Il nous le dit d'ailleurs, ça fait depuis bien longtemps. Vous dites que votre goût, c'est Courbet, c'est Monet, c'est Jackson Pollock, c'est Antaille, c'est Rothko, etc. C'est des œuvres magnifiques. En fait, moi, je vous dis non. Le goût qui restera de vos sociétés, c'est le goût qui s'exprime à travers les produits manufacturés, les produits dérivés. Bon, Warhol avait commencé, etc., etc. Donc, votre véritable goût, c'est celui-là qui m'intéresse. Votre, c'est le sien aussi, le goût de nos sociétés. Ce qui s'achète à des centaines de milliers, des millions d'exemplaires par des millions de personnes et qui a une esthétique. Donc cette esthétique, la voilà, dans des matériaux absolument splendides, faits par des plus grands artisans, et dans des dimensions d'œuvres d'art. Qu'est-ce que ça a provoqué pour ce qui me concerne, peut-être que d'autres ont senti la même chose, c'est que tout d'un coup, j'ai regardé les salles de Versailles, non plus traversées par ses acteurs, par son histoire, par ses grands moments, par sa beauté d'architecture, mais à travers cette question. Et excusez-moi, j'espère que je ne choquerai personne, je me suis rendu compte tout d'un coup qu'il y avait des excès qu'on pourrait, si on aimait les anachronismes, etc., qualifier de rococo, bien que ce n'était pas de kitsch, enfin, des choses absolument... tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, je n'aime pas ça. Titre personnel, et je me suis retourné vers les magnifiques bassins de l'Hainaut, etc. Et là, je me dis, là, j'aime ça. Voilà. Bon, mais donc, je me suis mis à regarder véritablement beaucoup mieux le château de Versailles. Mais la même chose, Murakami, donc Alice au pays des merveilles, qui peuple le château de ses créatures. Dans la chambre de la reine. Et là, peut-être j'aurai une information que je n'ai pas. Donc, il y a une sorte de petit monstre très baroque, très bien fait. Enfin, baroque n'est pas le terme, enfin, très, très excessif, très bien fait, avec des tas de personnages à l'intérieur cette figurine Bouddha, etc. Et j'ai levé les yeux et sur le ciel de lit de la reine, il y a Est-ce un oiseau qui renvoie à l'aigle autrichien? Est-ce le coq? D'accord. Donc j'ai vu ça et je me suis dit, de manière très ignorante et sans doute très blasphématoire, j'ai regardé ces deux figurines d'or comme ça. Je me suis dit, bon, ça n'a pas du tout été fait pour les mêmes raisons, ça ne joue pas du tout le même rôle, mais cet oiseau légèrement penché, qui n'a pas l'air de voler, qui est, à mon avis, dans une situation de volatile, avec le côté un peu comique de la chose, cette sculpture, je me dis, au fond, peut-être, ça n'est pas tout à fait inutile de se poser la question d'un rapport entre des goûts qui ont peut-être à un moment qui peuvent susciter des réflexions communes. Voilà. Donc, j'avais dans l'idée de terminer en disant simplement que l'art dans les monuments historiques, l'art dans le patrimoine, avec cette notion de patrimoine que j'ai essayé comme ça de vaguement esquisser, bien, c'est quelque chose de, c'est une très belle expérience parce que c'est une expérience fondamentale de la constitution de l'individu, c'est-à-dire c'est l'expérience de l'altérité. L'art, au fond, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse sans doute à l'histoire, au bâtiment, à l'institution, mais ça s'adresse à la personne, c'est-à-dire que l'art n'est peut-être pas forcément utile uniquement en tant qu'art. Bien sûr, je ne suis pas contre l'art pour l'art, mais il est cela, mais il est surtout l'expérience de quelque chose d'autre, c'est-à-dire une sorte d'altérité qui fait que tout d'un coup, on se pose la question de sa relation à l'histoire, de sa relation à la nature, de sa relation à la forme, de sa relation à l'autre, etc. Donc je pense que pour ce faire et pour être emphatique et comique, je pense que c'est absolument indispensable à la construction de l'individu parce que ça permet de vivre, si on est un peu attentif et si on prend un peu le temps de comprendre ce que c'est que cette expérience de l'altérité et de son enrichissement. Et je crois que je vais bien sûr, vu l'heure, ne pas lire ce magnifique texte de Peter Sloterdijk, si je peux, non, je peux. Et puis, qui dit la chose suivante, il dit dans l'heure du crime et le temps, sur des questions que j'ai un petit peu essayé d'évoquer là, et en fait, cette idée de la projection de l'art avec l'histoire en bagage. Lorsqu'il y a près de 3 millénaires, la pensée classique a débuté sous l'impression terrassante d'une nature qui paraissait à tout jamais achevée et semblait avoir une avance irrattrapable sur toute action humaine, ce qui constitue le fond logique du sentiment religieux. Cette pensée émergente, même si elle est subjuguée par l'être qui la précède, exprimait aussi un acte mental doté de son propre poids ontologique et dont les conséquences les plus lointaines ne se révéleraient que dans la modernité. Pourtant, dans la mesure où elle voulait contempler la nature des natures, la raison classique a produit l'apparence métaphysique caractéristique du calme sublime. Ces éléments étaient l'esprit ou la pierre, tous deux conçus comme les extrêmes, les substantialités supérieures à toute action, à côté desquelles l'autre était toujours le néant. La pensée moderne, en revanche, est possédée par sa propre puissance. Elle se note elle-même comme force et capacité. De plus en plus inquiète, activée et devenue attentive à ses propres actes, elle suit l'histoire faite par l'homme qu'il faut désormais mener enfin à bien de manière planifiée. Elle s'ingère de plus en plus dans ce qui est, dans le sens de l'être. Au fil de son élévation, elle devait forcément approcher d'un point à partir duquel la volonté humaine devenait suffisamment puissante pour se poser en concurrente de la substance classique. Ainsi, la nature et l'être ont perdu leur monopole ontologique. Ils se sont vus provoqués et remplacé par une série de créations artificielles sorties du néant et par l'émergence d'un monde post-naturel, entre guillemets, issu de la seule volonté. On n'est pas étonné que dans la civilisation hautement avancée, les citadelles de l'être, avec un grand E, voient toujours une ombre noire ramper autour d'elles. C'est précisément ce néant qui, dans un premier temps, sous la domination d'un concept monovalent de l'être, être c'est ce qui est, néant c'est ce qui n'est pas, ne pouvait être présenté que comme hostile à l'être, ce qui n'est pas le mal. Mais avec le nihilisme moderne, le pouvoir typique des temps modernes qu'avait l'homme de commettre des actes sans modèle et sans fond et d'inventer du nouveau a été officiellement reconnu et représenté globalement sous un nom marquant, quoique diffamant. Désormais, même rien est quelque chose. Pour l'art contemporain, parfois, on peut se poser la question. Mais... Alors, désormais, même rien est quelque chose. Je dis ça avec tout l'amour et l'importance que l'art contemporain a pour moi. Le champ ontologique devient plurivalent. Depuis la mauvaise apparence du néant, du nihilisme, c'est effeuillé. Le nihilisme, nous le savons, à présent, ne représente que le revers de la créativité et de la faculté de vouloir. Et quelle modernité accepterait qu'on lui dénie son droit de naissance à une vie créative et au projet né de la volonté ? Pour tout le temps mondial des États de la modernité à venir, il n'y a plus de doute, la volonté d'artificialité prime sur la propension à se conformer à une nature définie ou à une antiquité normative. C'est la raison pour laquelle, dans le noyau de la modernité pensée plus avant, seuls les inventeurs, artistes et entrepreneurs, trois catégories différentes, peuvent encore jouer un rôle clé. Donc c'est tout le mal que je souhaite aux artistes. C'est un texte très compliqué, parce que vous avez vu, très paradoxal, avec de quoi avoir des inquiétudes et de quoi conserver à partir de ces inquiétudes et ce néant la seule réponse possible qui est de créer. Donc que les artistes soient aux côtés des autres désormais des hommes clés, je ne saurais que m'en réjouir.